Toutes les musiques peuvent être du jazz. Même l'air le plus commercial peut devenir du bon jazz. I love my baby, ba-da-da-da-da.
Eh bien, ce sera da-da-da-da-da ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de jazz, de frappe, d'impuissance, de Schubert, d'économie et même de Radiohead. Plateau Frappe avec Baptiste Trottignon qui publie son 8e album, Hit, autoportrait du pianiste jazz en compositeur pour une ligne qui part du baroque jusqu'à la pop en passant par Schubert. Lucille Como.
Un musicien qui travaille dans ses compositions les accents rythmiques, la simplicité des mélodies et la lumière dans les harmonies. Il jouera en trio Paul en direct dans le studio.
19h35, plateau Zazirocratie avec Yves Citon pour son essai Pour une écologie de l'attention, pour une défense et illustration de la concentration collective. Manu Farine.
Retour sur le parcours de celui qui se définit comme un bricoleur et pour qui l'improvisation collective de jazz pourrait être la forme parfaite de l'anticapitalisme.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle avec le tout nouveau journal de la culture. Mais jusqu'à quand de Zoé Svez?
C'est une planche qui est parue dans le magazine qui s'appelait Le Monde 2 à l'époque, notre supplément hebdomadaire. Et donc le dessin incriminé, effectivement, on voit le pape sodomiser un enfant. Est-ce qu'on doit condamner le dessin ou est-ce qu'on doit condamner ce qu'il représente?
C'est quoi ce silence de l'Église devant des viols de mineurs? Il y a une colère. Et le boulot du dessinateur, c'est d'exprimer cette colère devant cette Église qui n'a rien fait ou qui a laissé faire ou qui a même protégé.
Bonsoir Zoé Svez.
Alors ça, c'était mon son du jour.
C'est vous ne dites jamais bonsoir.
Mon
vous
Dieu,
avez quelque
terrible,
chose contre moi.
Je suis terriblement impoli. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Bonsoir.
Exactement, mais je lui apprends la politesse, moi, dans son tout nouveau journal. C'était votre son du jour et pourtant, il me semble bien le reconnaître.
Oui, tout à fait. C'est un extrait du film caricaturiste Fantassin de la démocratie où l'on entend le dessinateur Plantu. Il parle du procès intenté contre lui par une association de catholiques après la publication de son dessin qui mettait en scène le pape en train de sodomiser un enfant et légendé pédophilie. Le pape prend position. Eh bien, il a eu gain de cause aujourd'hui, puisque
ça fait
tribunal...
rire.
Ça fait rire, justement, eux, ça les faisait pas rire, mais le tribunal correctionnel de Paris l'a relaxé aujourd'hui dans cette affaire et il a même condamné l'association qu'il poursuivait à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts.
Maintenant au dossier du jour consacré à la salle Pleyel avec l'ouverture en janvier 2015 de la Philharmonie, le nouveau temple de la musique classique à Paris. La salle mythique va être donc attribuée à un nouvel opérateur privé qui aura pour mission d'y développer une programmation totalement nouvelle puisque la musique classique et ses subventions publiques partent à la Villette à Paris.
Et oui, alors les candidats avaient jusqu'à ce mardi midi pour répondre à cet appel d'offres. Ils sont donc 7 à sauter sur cette occasion. Un appel d'offres qui leur interdit donc la musique classique. On sait aussi que tous ont prévu rentabiliser oblige des activités de réception et d'événementiel, mais pas au-delà de 40%, comme l'indiquait le cahier des charges. Alors une fois ce cadre posé, les candidatures sont très différentes, même si on n'a pas tout dévoilé évidemment. Et parmi les candidats rompus au monde du spectacle, on trouve Pascal Nègre d'Universal et sa filiale Olympia, qui s'est associée avec le spécialiste événementiel Eurosite, ou dans un autre genre, Jean-Marc Dumonté, producteur de Nicolas Canteloup, associé de Laurent Ruquier au Théâtre Antoine, qui est spécialiste de la relance des théâtres en difficulté. Écoutez-le.
Cette salle, elle est chargée d'histoire. Cette salle, il faut l'incarner. Et c'est pour ça, j'allais dire que je me présente, que nous avons candidaté, parce que nous pensons que c'est un projet pour un homme et une équipe, parce que toutes les réussites des grandes salles, c'est toujours des salles qui sont signées par des hommes. Donc nous, on pense qu'on a une vraie singularité. Et moi, je pense, parce que j'ai repris 4 théâtres que j'ai entièrement redressés, j'ai relancé la cérémonie des Molières, je pense que vraiment, on a un savoir-faire pour partir d'une page blanche. Et le repreneur, il doit s'investir personnellement, s'engager pour produire au sein de Pleyel des spectacles de grande qualité, lui-même. Voilà, ça ne doit pas être un garage, Pleyel. Ça doit être un lieu où le propriétaire, le nouveau propriétaire, s'investit et produit lui-même.
Il a dit le projet d'un homme, car parmi les autres candidats, il y a aussi de gros groupes dont Pleyel aiguise l'appétit.
Oui, c'est en creux contre eux que Jean-Marc Dumonté met en valeur son projet contre eux. Marc Ladret de la Charrière, homme d'affaires français, dont le groupe spécialisé dans la finance s'est aussi diversifié ces derniers temps dans la gestion de salles de spectacle. Ou contre Arnaud Lagardère, qui a déjà récupéré les Folies Bergères, le Casino de Paris, 20% du Zénith dans son pôle Live Entertainment, et qui compte sur Pleyel pour devenir le champion de la scène. Ou encore le patron de MK2 qui se lance, Nathanaël Karmitz. Qui se lancent dans le spectacle. Alors tous ces gens-là, ils se sont adjoints à les services de sociétés de production ou d'événementiels spécialisés pour être crédibles. Et cela peut aussi marcher, comme l'explique David Sanson, spécialiste à la fois de la musique classique et des musiques actuelles, et qui est conseiller artistique.
J'ai l'impression que le marché de l'organisation de concerts se concentre de plus en plus, avec dans le domaine des musiques actuelles quelques grosses agences de ce qu'on appelle booking qui sont adossées aussi à diverses salles, donc qui contrôlent à la fois les contenus et les tuyaux, comme on dit. Ça peut devenir une espèce d'Olympia bis en fait. Je pense qu'on peut lui faire tout faire parce qu'elle bénéficie d'un emplacement assez privilégié. Elle est quand même au cœur des beaux quartiers de Paris, donc ça m'étonne pas que des gens comme Lagardère, etc., se mettent sur les rangs pour en faire l'acquisition. Effectivement, les prochaines années, elles vont être très, très palpitantes. On peut que se réjouir qu'il y ait une offre comme ça tellement abondante, avec aussi la Gaîté Lyrique, avec plein d'autres salles. Après, c'est un tout petit peu dommage qu'on ait un peu manqué d'anticipation, qu'on ait tellement attendu avant de construire cette Philharmonie, et que maintenant, quand elle est quasiment inaugurée, on se dise « Ah, mais ça va poser des problèmes ». Parfois, on a l'impression qu'on juxtapose un peu les pièces d'un puzzle sans vraiment se préoccuper d'une politique d'ensemble. C'est un tout petit peu ce que je pourrais déplorer.
Et oui, car puisque le classique, eh bien, c'est fini, que va-t-on voir ou entendre dans cette salle Pleyel?
Alors là encore, rien n'a été dévoilé, mais c'est là visiblement que les projets vont être assez différents. On parle de jazz, de rock, d'humour, de stand-up, pourquoi pas de théâtre, même si pour Jean-Marc Dumonté, tout n'est pas faisable à Pleyel.
Je pense qu'il ne faut pas galvauder Pleyel. C'est-à-dire que ça doit demeurer un lieu rare. On ne doit pas jouer, à mon sens, la saturation. Il ne doit pas y avoir 300 dates par an à Pleyel, il doit y en avoir 150 de qualité. Un de nos exemples, c'est le Châtelet. C'est-à-dire, c'est des grands rendez-vous musicaux, incontestablement, avec des grandes comédies musicales. Dans l'appel d'offres, par exemple, il y a marqué qu'on peut faire des one-man shows. Je ne vois pas forcément du tout Pleyel comme un lieu de one-man show, parce que l'artiste est trop loin de son public et que c'est un lieu de musique. C'est un lieu de musique. Alors, on n'a pas le droit de faire de la musique classique, mais on peut faire des grandes représentations et des grands spectacles musicaux.
Alors, le grand oral des candidats, ce sera en novembre prochain, à moins que leurs ambitions ne soient refroidies dès cette semaine par le tribunal de commerce de Paris. En effet, l'ex-femme de l'ancien propriétaire de la salle s'estime lésée et peut-être qu'elle fera annuler la vente de Pleyel qui datait de 2009.
Peut-être des réactions de votre part, Baptiste Trottignon, vous qui avez joué à Pleyel.
Oui, j'ai joué quelques fois à Pleyel, pas souvent, parce qu'effectivement, il y a plus de musique classique.
C'est fini, hein.
Oui, oui, mais j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que oui, je fais un peu partie des gens qui trouvent ça un petit peu dommage, peut-être qu'il n'y ait plus de musique classique dans cette belle salle. Je suis tout à fait conscient que c'est lié à la harmonie, qu'il y a des raisons, etc. Et, ok, mais je suis un peu plutôt dans la position wait and see, parce que je ne sais pas trop, je ne sais pas vous, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Après, je n'ai pas étudié les dossiers de qui des repreneurs, etc., évidemment, mais... ça me paraît important que des gens peut-être qui vont avoir un poste important de pouvoir décisionnel, ceux qui seront au final à la tête de Pleyel, qu'il y ait des gens qui soient artistes là-dedans, quoi, effectivement. Quoi. Très basiquement, c'est plus compliqué que ça, je sais. Il ne s'agit pas qu'il y ait des vieux babos avec la guitare à mandolière, mais je veux dire...
Quel spectre.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... c'est, sans rentrer dans les détails, mais on sait bien qu'on a des postes de pouvoir importants comme ça, décisionnaires culturels. Il y a des gens qui sont d'abord là pour aimer la musique, enfin la musique en l'occurrence, qui pensent d'abord comme ça peut-être.
Yves Citon ?
Moi je rêve simplement d'un monde dans lequel au lieu que Lagardère ou des gros investisseurs s'approprient Pleyel, on repense un petit peu les régimes de propriété, qu'on pense qu'une salle de concert comme ça c'est un bien commun et qu'on permette à des coopératives de musiciens de programmer des choses qui leur plaisent à eux, qui puissent nous plaire à nous, qui puissent nous lancer des défis sans forcément interdire la musique classique, c'est quand même un petit peu rigolo.
Mais peut-être que ce serait le retour des gros babos à guitare qui font tellement...
Pour l'expression, c'est un peu simpliste, mais c'était juste pour dire... Il ne s'agit pas que ce soit des artistes inconscients du commerce, etc. Bien sûr que c'est... Non, c'est ça que je voulais dire, je me suis mal exprimé peut-être.
Non, mais j'adorais cette expression.
Mais vous avez compris, au moins vous avez compris ce que
je voulais dire. Avec une guitare en bandoulière. Monstrueux.
Bon,
Allez, les brèves. Non, mais c'est marrant, les brèves.
Les brèves, on change de registre, on ouvre avec les médias tunisiens. Deux des chaînes de télé les plus populaires du pays, ainsi que plusieurs radios, ont été condamnées à payer plusieurs milliers d'euros d'amende par la justice tunisienne. Elles refusent en effet de renouveler leurs licences qui ont toutes été délivrées sous le régime de Ben Ali.
Un Degas volé à Chypre.
Une petite toile danseuse ajustant son chausson, estimée à 6 millions d'euros, a été dérobée à un collectionneur privé dans l'île de Chypre. La toile n'était pas assurée. Des montres et autres objets de luxe ont disparu avec. La police a arrêté un suspect et elle en recherche deux autres.
8 toiles de maître saisies chez l'ancienne première dame philippine, Imelda Marcos.
La justice philippine a considéré que ces toiles, parmi lesquelles on trouve une femme couchée de Picasso, une nature morte de Gauguin ou un portrait de Goya, ont été acquises grâce à des détournements de fonds publics et qu'elles reviennent à l'État philippin. Après perquisition, elles ont donc été confisquées. Je rappelle qu'Imelda Marcos est l'ancienne première dame du régime autoritaire et corrompu de son mari et qu'elle est encore aujourd'hui au pouvoir puisqu'elle est députée.
Et la dernière.
Alors, je tenais simplement à vous parler d'une œuvre phare, une œuvre qui, selon moi, va compter dans l'histoire de la littérature et dont on n'a pas assez parlé. J'ai nommé le Dictionnaire des chats illustres, qui est sorti cette semaine aux éditions Honoré Champion, qui va vous permettre, pour la modique somme de 19 euros, de faire connaissance avec les plus grands chats de l'histoire, puisque les
on
deux auteurs...
On travaille depuis combien de temps, Zoé?
Écoutez...
À peine, même pas un mois. On arrive à la fin du mois et déjà, il va falloir penser à votre remplacement.
Mais les chats s'élèvent. Moi-même, je ne suis pas très fan, mais il y a des gens que ça intéresse beaucoup. Vous connaissez Baudelaire, etc.
Qu'il se manifeste.
Alors, voilà. Alors qu'il soit angora, abyssant, persan, de gouttière,
qu'il soit connu. C'est un plan Jacques Dutronc, ça.
C'est pas possible.
Oui, ou Françoise Hardy, voilà. Est-ce que justement, elle s'est distinguée pour sa singularité physique ou pour son aptitude remarquable? Eh bien, tous ces chats célèbres ont été recensés dans cet ouvrage unique. Et c'est en fait un peu le who's who du chat.
C'est n'importe quoi. Benoît Lagan, reviens, je t'en prie.
Je suis sûre que vous ne pourrez plus vous en passer.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Je n'arrive pas à finir. Donc je vous laisse. Ce sera musical ce soir.
Ok, très bien. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre? Même si c'était assez consternant vers la fin, Baptiste Trottignon et Yves Citon. Yves Citon, je vous ai vu prendre plein de notes.
Moi, je prends toujours des notes, oui, oui. Là, je pensais à un livre intéressant
qui
est...
Ah non, si c'est un livre intéressant,
sur les chats, justement, de peinture de chat. Donc apparemment, on peut tremper les pattes de chat, ou peut-être eux-mêmes ont la tendance de tremper leurs pattes de chat dans de la peinture, et ensuite gratter sur des tableaux. Et ça fait des choses à la De Koning qui sont absolument splendides, que je recommande.
Ça, Manu Farine, vous êtes fait un ami avec Manu Farine, c'est la défenseuse de l'art contemporain.
Je vous ai vu mais pas des chats.
Pas des chats. Vous avez vu prendre des notes aussi au départ, pendant le rappel des titres du journal, non?
Bah, je fais juste attention à ce dont on parle, donc tel et tel de l'UMP, tel et tel sous couteau du PS, une dette de 200 milliards, enfin il y a des choses qui résonnent comme ça autour de nous et dans lesquelles on vit et dont on se rend même plus compte que c'est important, mais qu'il y a d'autres choses qui seraient aussi importantes, qu'on pourrait monter en épingle pour les rendre importantes.
Très bien. Baptiste Trottignon?
Mais il dit ça très bien, beaucoup mieux que moi. Donc,
on passe à tout de suite alors. On commence?
On commence. Allons-y.
19-20, le rendez-vous.
Rendez-vous.
C'est sur France Culture.
Plateau Frappe avec vous, Baptiste Trottignon, pianiste de jazz, compositeur, victoire du jazz en 2003. Vous sortez votre 8e album, c'est Hit, sous le label Naïve. Ce sont vos compositions jouées en trio jazz classique et la formation avec laquelle vous avez commencé, on va y revenir. D'abord, un commentaire sur le titre Hit, que vous traduisez par Frappe. Ça représente bien sûr pour vous la sonorité primitive. Bien sûr, ça passe d'abord par les percussions, mais au piano, qu'est-ce que la frappe ?
C'était peut-être juste un petit clin d'œil pour signifier quelque chose d'un petit peu différent, ce que j'ai voulu signifier souvent au fil des albums jusqu'à maintenant, où j'ai souvent affirmé une volonté de faire chanter le piano, le côté cantabile du piano. Le piano est aussi un instrument de chant. C'est peut-être plus évident dans la musique classique, un petit peu moins dans le jazz. On parle souvent de beaux sons pour un pianiste classique et de gros sons pour un pianiste de jazz. C'est très, un peu simpliste, mais c'est pour comprendre le truc. Et donc sur cet album-là, j'avais peut-être, ça ne veut pas dire que sur les albums précédents, c'était tout mou, il n'y a pas de percussion. Mais sur cet album-là, c'est aussi dû à la présence d'un batteur un peu hors norme, qui est Jeff Ballard, sur cet album, qui est un immense batteur, un immense percussionniste. Et c'est une façon de signifier que le piano percussion est quelque chose d'important pour moi aussi. Pardon. Et aussi, ça je l'explique un petit peu dans les liner notes, par extension, la façon de placer les accents dans ces musiques improvisées est passionnante, enfin quelque chose de passionnant. Et parfois, sans rentrer dans les détails, mais dans des jazz un petit peu trop à mon goût consensuel, on va dire, on retombe toujours sur le premier temps. Et puis voilà, il n'y a pas forcément de surprise du contrepoint des rythmes. Je ne vais pas plus loin parce qu'après, c'est un peu, ça parle le langage du musicien plus.
Non, mais ça peut être intéressant quand même.
Mais j'aime bien cette idée de pouvoir faire des trompe-l'œil rythmiques, etc., de déplacer les accents à des endroits où on ne les attend pas. Je pense à Lini Tristano, qui est un maître pour moi dans la façon de. Qui n'est pas un pianiste très connu de premier plan, c'est pas Keith Jarrett ou Chick Corea, mais c'est un maître de l'accentuation comme ça. De la même façon, comme dans la musique classique, par analogie, il y a des accentuations chez Beethoven ou chez Ligeti, par exemple, pour prendre deux exemples très différents, mais où les accentuations sont là où on ne les attend pas, et où on croit qu'en fait le premier temps il est là, mais en fait non, etc. Donc c'est un peu à l'antithèse de beaucoup de choses en chanson où c'est très premier temps. Il y a d'autres qualités dans la chanson, mais il n'y a pas ce truc de relief rythmique que j'aime bien essayer de développer de temps en temps.
Et citons peut-être un commentaire.
Bah oui, quand vous parliez, je pensais à toute une série de musiciens comme Vijay Iyer aux États-Unis qui jouent justement là-dessus et qui développent avec vous. Il y a vraiment une école de musiciens qui travaillent la frappe de façon très différente de Cecil Taylor, parce qu'il y a quand même un jeu sur le groove, ce qui nous emmène aussi, ce qui nous a fait envie de danser, c'est des danses un petit peu désarticulées.
En même temps, paradoxalement, dans Cecil Taylor, si on parle de Cecil Taylor, allons-y. Mais il y a un côté très dansant, justement, quoi, paradoxalement. Tout pas une danse au sens, le groove, au sens le premier du terme, mais c'est un vrai. Il danse d'ailleurs pendant ses concerts.
Lui-même, oui, avec la voix.
Vous retrouvez, Baptiste Trottignon, la formation trio de vos débuts, donc piano, contrebasse, batterie. En quoi est-ce que cette architecture en triangle, c'est une expression qui est de vous convient ?
Elle convient à beaucoup de pianistes, hein, c'est-à-dire que c'est une formule un peu éternelle. Je fais souvent l'analogie pour expliquer parfois avec le quatuor à cordes en classique, par exemple. Pourquoi est-ce que depuis des centaines, des siècles, on écrit pour quatuor à cordes ? Parce que ça sonne bien. C'est aussi bête que ça, parfois. Pourquoi est-ce que deux violons, un alto et un violoncelle, plutôt que trois violons et deux violoncelles, je ne sais quoi ? La formule est prouvée, enfin, l'expérience a prouvé que ça sonne magnifiquement bien, que c'est très riche et infini. C'est un petit peu pareil, en plus resserré historiquement dans le temps, pour le trio piano, contrebasse, batterie. Il y a une histoire de trio, mais qui pour moi est absolument pas limitative dans ce qu'on peut continuer à en faire. C'est pas parce que, c'est la question du langage aussi après, c'est pas parce qu'une langue existe depuis déjà longtemps qu'elle se doit d'être morte, au contraire. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il a pris une note juste quand j'ai dit ça.
Citons, allez-y. Pendant ce temps-là, vous allez peut-être vous installer, Baptiste Trottignon, avec vos musiciens. Yves Citon, oui, vous avez pris une note, il vous a vu. Donc
Non, mais j'ai le droit de prendre des notes. Là. Simplement, je notais garantir. Des belles expressions comme le jazz consensuel, le consensus, c'est un petit peu le sens commun des choses qu'on attend dans le jazz. Et moi, le type de musique qui me plaît, c'est justement celle où on se sent un tout petit peu chez soi parce qu'on retombe sur quelque chose et en même temps, on se sent toujours pousser un pied au dehors de où on est à l'aise. Et je crois que ce que fait Baptiste Trottignon nous pousse justement à trespasser et à aller juste un petit peu en dehors de ce qu'on attendait.
Et ben, la preuve par le live, Lucille.
On vous écoute, Baptiste Trottignon, en direct dans le studio. Vous êtes accompagné de Nicolas Moreau à la contrebasse, Arnaud Dolmen à la batterie, dans une de vos compositions, Paul.
Thank you.
Baptiste Trottignon, Nicolas Moreau à la contrebasse, Arnaud Dolmen à la batterie. C'était Paul, une composition de Baptiste Trottignon. L'album Hit a paru chez Naïve. Je donne quelques dates de concert: le 2 octobre à Tours, le 11 à Vincennes, le 15 à Toulouse et le 17 novembre au Café de la Danse à Paris.
Comment expliquer ce titre, Paul? Quelle clé de lecture cela donne sur cette composition?
McCartney, tout simplement.
Et alors, qu'est-ce que ce morceau doit à McCartney?
Le morceau n'a pas été écrit en pensant à McCartney, c'est les titres viennent souvent après. On essaie de trouver un titre en forme de clin d'œil. Quand on fait de la musique instrumentale, ce n'est pas une chanson, on n'a pas le rapport au texte ou le titre a un rapport au texte. Là, il n'y a pas de. Donc, les interprétations de la musique instrumentale sont assez libres dans la façon de les percevoir. Mais non, parce que la mélodie est la mélodie peut-être la plus popisante, pour utiliser un horrible mot, dans l'album. Quoi. C'est une mélodie un peu avec des accords un peu à trois sons, un peu Beatles, quoi, voilà, tout simplement. McCartney est un immense songwriter, comme on dit. Et quelqu'un que j'ai beaucoup écouté les Beatles, comme plein de gens. Et voilà, quoi, on a pensé, quand je suis parti sur ce pam 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 pam, le signato au début, là, ça fait un peu le Maxwell Silverhammer dans Abbey Road. John was physical, en plus rapide, mais il y a un côté comme ça, un peu tac 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 tac, assez Beatles, je pense.
Ah, donc il y avait une vraie explication à cela. Lucille Como.
Vous parlez des Beatles, vos morceaux se nourrissent toujours de toute une culture musicale de ce point de vue. Il y en a un qui, je pense, est représentatif, c'est Busy Brain, qui commence presque comme une suite de Bach, qu'on écoute. Et qui se poursuit comme une chanson pop un peu. Comment est-ce que vous l'avez construite, ce morceau-là, Baptiste Trottignon?
Très très mal. Non, pour être tout à fait honnête, puisque si on veut parler franchement,
c'est... Ah oui.
Je suis content de cette. Enfin, en tant que compositeur, humble compositeur, je suis content du début, mais je ne suis pas forcément content dans ce morceau de moi. Vous savez, les artistes sont souvent insatisfaits d'eux-mêmes, dans la façon dont c'est agencé, justement. Alors, bon, il y a peut-être que moi que ça dérange, hein, mais.
Mais pourquoi? Pour quelle raison?
Parce qu'il y a un début, pas. Justement. Après, bon, là, vous ne voulez pas passer, il n'y a pas de problème. Mais c'est un morceau pour la batterie, c'est-à-dire que sur cette partie que vous appelez. Qui évoque un petit peu Bach, parce qu'avec un dessin mélodique dans les graves. Les suites pour violoncelle. Il y a un solo de batterie dessus qui est très, très énergétique, très intense, très volubile, donc très rock pour le coup. Et donc effectivement, avec ce passage un peu pop au milieu, mais du coup le morceau, si je me regarde dans le miroir, est un petit peu déconstruit peut-être, je trouve. Mais par contre, Jeff Ballard, le batteur, donc fait un solo à la fin de l'album, à la fin de ce morceau, qui est magnifique.
À propos, comme vous parlez de pop ou de popoïsante depuis tout à l'heure, je me demandais, vous aviez des projets il y a quelque temps avec un auteur de chansons. C'est toujours en cours et c'était qui en fait? Parce qu'on n'avait jamais réussi à trouver le nom.
Mais on a trouvé ça dans les entretiens. Où est-ce que vous avez lu ça? Non, j'avais fait les trucs sur Song 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 avec Christophe Miossec. Donc il était peut-être question qu'on fasse d'autres choses. Et puis il est reparti sur d'autres trucs après, moi aussi. Donc on reste en contact. Mais voilà, il n'y a rien de concret pour l'instant.
Alors, comme beaucoup de musiciens jazz ou jazzmen, vous êtes inspiré par le baroque. Mais, Lucille me disait que quand vous êtes arrivé ici tout à l'heure, directement vous êtes mis au piano et vous jouiez quoi déjà?
Variation Goldberg, non? C'était ça?
Oui, pour se chauffer un peu.
Pour se chauffer. Mais il y a une autre référence assez surprenante dans l'album, c'est Schubert qui revient souvent et vous avez même inclus dans un de vos précédents albums un lead extrait. Ce lien avec Schubert, Baptiste Trottignon, comment l'interprétez-vous? Le baroque, on voit pourquoi, mais Schubert?
Je sais pas. Ce que je sais, c'est que oui, ça fait partie des auteurs qui me parlent, comme plein d'autres. Après, parler de Schubert, il y a plein qui le font tellement mieux que moi. Mais dans le panthéon des grands compositeurs européens, romantiques, ou en tout cas de classique à romantique, Il a quelque chose un petit peu à part, oui, une espèce de choses qui parlent au plus intime de soi. Enfin, c'est très banal ce que je dis, hein, c'est, encore une fois, plein d'autres le disent mieux que moi. Mais, il y a quelque chose de profondément blessé chez Schubert, et en même temps, il y avait un très chouette bouquin de Jacques Drillon qui avait été, où la page d'introduction était magnifique. Où il y a une espèce de maladresse aussi chez Schubert, où le mec a toujours voulu imiter Beethoven mais qui n'est jamais arrivé. Mais qui fait autre chose, du coup. C'est souvent comme ça que les grands créateurs débarquent. Ils veulent imiter quelqu'un au départ, puis en fait, bah, c'est plus fort qu'eux. Il y a autre chose qui sort, et c'est ça leur
pas. Mais justement, à vos débuts de compositeur, est-ce que vous étiez dans l'imitation, justement,
Avez commencé à composer, ouais. Et encore maintenant, ouais. Moins maintenant peut-être, parce qu'au fil des années, effectivement, je commence à, tout doucement, peut-être à trouver des choses personnelles. Mais bien sûr, dans les métiers qu'on fait, dans l'exercice de la musique qu'on fait.
Alors, vos premières compositions, elles étaient placées sous le signe de qui, par exemple?
Je sais pas. Les toutes premières, quand j'étais ado, c'était à l'époque, j'écoutais beaucoup de free jazz, des trucs très. C'est après que j'ai eu ma période bebop, tout ça, où j'ai structuré un peu tout ça. Mais à l'époque, j'écoutais beaucoup de jazz européen, ou alors les Paul Bley, les Eric Watson, Joachim Kühn, tout ça, etc. Donc, je m'inspirais un peu de ces choses, plutôt assez barrées, pour dire les choses simplement, pour parler des pianistes. Puis après, bon, il y a eu plein de choses. Mais là, ça va être long. Si on rentre là-dedans, ça va être très long.
Yves Citon, vous prenez des notes? Je sais, vous avez
le droit.
J'adore cette phrase. C'est un gimmick. Manu.
Non, mais je me demandais si dans un cheminement intellectuel, dans un parcours intellectuel, Yves Citon, est-ce qu'il pouvait y avoir quelque chose de cet ordre-là,
et c'est-à-dire de l'imitation, ouais.
quand vous avez commencé.
C'est en imitant qu'on apprend à se forger un style. Ça, j'en suis persuadé, en tout cas. Ouais.
Absolument. Ouais. Il y a un sociologue de la fin du 19e qui s'appelait Gabriel Tarde qui disait que tout ce qu'on fait, c'est imiter. Que la vie sociale, c'est de l'imitation. Et un musicien qui devient original, hein, on se dit d'habitude, être original, c'est l'origine. Mmh. On est original et puis ça s'exprime. Non, on devient original en multipliant assez les imitations pour que personne n'imite le même ensemble de choses bizarroïdes. Et ça, je trouve ça très beau. Donc on fait que, en gros, que devenir les échos les uns des autres, sauf que ces échos ont chaque fois des petits infléchissements et il faut sculpter les infléchissements d'échos qui sortent de nous, mais ça vient toujours d'ailleurs. Ça, moi, j'en suis convaincu.
Lucille Comeau.
Alors, Baptiste Rotignon, on vous a demandé, comme à tous nos invités maintenant, d'apporter un son qui vous a marqué. Ce son, on l'écoute, c'est vous qui allez le produire, il y a toute une mise en scène.
Oui, non, enfin, c'est juste parce qu'on m'a dit ça un peu tout à l'heure, dernière minute, et j'ai pas cet après-midi, enfin, je sortais de chez le dentiste, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Alors, je suis repassé chez moi, j'ai mis ces petites cloches tibétaines qui font un son qui est très beau, mais alors ça marche pas toujours du premier coup, donc je vais essayer de le faire comme il faut. Attends. Si ça marche pas, je le referai. Hein.
Ouais. Ça a marché ?
Ça a marché à peu près.
Alors, identification de ce son, et pour quelle raison l'avez-vous choisi ?
Parce que ça traînait sur mon bureau.
Non, mais
c'est des petites cloches tibétaines, c'est un son qui est très pur, très simple, très beau. Mais je n'ai pas d'histoire à raconter sur ce son. C'est les percussionnistes, les batteurs, parfois, se trimballent avec des petites cloches comme ça. Pour faire un son comme ça dans une improvisation. Mais non, puis c'est un son qui est riche en vibrations. On est quoi ? Qu'est-ce qu'on est d'autre que des vibrations ? Nous sommes des vibrations.
Donc,
voilà, c'est une évocation de la vibration première.
Lucille.
Vous avez joué au cinéma. Le rôle d'un jeune pianiste de jazz, c'était dans Le Nouveau Monde d'Alain Corneau, un film qui se passe à Orléans après la guerre, l'histoire d'un jeune garçon dont le mentor est un soldat américain passionné de jazz. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce tournage ?
Joué par James Gandolfini,
et oui.
Le grand James Gandolfini.
Feu.
Quel souvenir, merveilleux. Bon, d'abord, j'avais 20 ans, donc c'est très fun, c'est très chouette quand on a 20 ans de participer à un tournage. J'avais quand même une quinzaine de jours de tournage, donc c'était pas juste une journée. Enfin, on avait du temps parce que, comme il y avait plusieurs acteurs amateurs, dont moi sur le film, Alain Corneau avait pris du temps dans son budget, on va dire, enfin dans le planning, quoi, pour plus de temps qu'avec les acteurs professionnels. Et c'était une rencontre magnifique avec Alain aussi, avec qui je suis resté en contact. Il est décédé malheureusement il y a quelques années. Mais qui était un mec extraordinaire et une des personnes les plus riches que j'ai rencontrées dans ma petite vie. Et non, c'était très excitant. C'était aussi une période importante où c'est une des personnes qui m'a fait comprendre, puisqu'on est sur France Culture. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, vous devez probablement savoir. Mais cultivé, pas au sens, comment dire,
pas au sens encyclopédique, la connaissance, etc., au sens humain aussi, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup voyager, etc. Et c'est un des premiers qui m'a fait comprendre. Moi, je viens d'une culture très, d'une éducation très, très, très classique, Télérama, etc., les choses qui sont. Hein. Et là, moi, à l'époque, j'avais 20 ans et il y avait le succès juste avant Tous les matins du monde. Et donc, j'étais un petit peu cinéphile. Pour moi, Alain Corneau, c'était dans les petits papiers. C'était bien, c'était du bon culturel.
Bon cinéma.
Du bon cinéma, tout bien comme il faut. Et là, sur le plateau, un jour, il me parle de Massacre à la tronçonneuse. Et il me dit, ouais, c'est génial, ça, tu verras, il prend la fille, il accroche au crochet de boucher, tu pisses de rire, c'est super. Et là, ça fait clic dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, d'accord, donc ça veut dire que... Ça m'a brisé une espèce de perception de la culture bien pensante, on va dire. Ça m'a beaucoup ouvert. Voilà, juste ça, mais je voulais le dire.
Et vous l'avez vu, Massacre à la tronçonneuse? On a reçu Toby Hooper il y a peu de temps ici.
Ah oui, d'accord. Oui, je l'ai vu un peu après, d'ailleurs.
Ouais. Et ça vous a fait rire?
Bah, si on le prend au second degré, ouais, c'est marrant.
De toute façon, c'est une comédie qu'il voulait faire, d'ailleurs, au départ.
Je ne connais pas l'histoire en détail, mais c'est tellement énorme, c'est génial. Ouais, c'est assez drôle.
Yves Citon, c'est un film que vous avez vu aussi?
Non, malheureusement pas.
Mais vous voyez, aujourd'hui, ce qu'il vous reste à faire. Là, j'ai vu que vous n'aviez pas pris de notes à ce sujet, d'ailleurs.
Bah non, là, je me sens inhibé.
On va continuer tout de suite.
Dans ce studio.
Le rendez-vous.
Plateau alternative avec vous Yves Citon, professeur de littérature du XVIIIe siècle à l'université Stendhal Grenoble 3, auteur de dizaines d'ouvrages qui touchent aussi bien à l'histoire du discours économique qu'à l'interprétation littéraire transférée aux sciences ou à l'imaginaire spinoziste. Et vous publiez au Seuil « Pour une écologie de l'attention », un essai qui s'ouvre sur le titre que l'on vient d'entendre de Radiohead, « Lockerworm ». Qu'est-ce que cet extrait dit de votre livre, en fait, de cet essai? Quelle est la clé de lecture, puisque c'est la première chose par laquelle on entre dans cet essai?
D'accord. Donc, il dit d'abord du point de vue des paroles, simplement la traduction des paroles, c'est qu'on est en train de manier des sacs, sandbags, hein, des sacs pour se protéger des inondations. Donc on entend des choses un petit peu de changement climatique, de dérèglement climatique. Et ce qu'il chantait là, que je n'ai pas compris d'ailleurs la première fois que j'ai entendu la chanson, c'est « Because you have not been paying attention », parce que vous n'avez pas fait attention et que maintenant c'est trop tard et qu'on a la tête sous l'eau. Et donc c'est un petit peu l'horizon d'un problème attentionnel qui s'articule avec un problème écologique. Et donc, écologie de l'attention, c'est pour parler de l'attention comme une écologie, d'environnement attentionnel, comme s'il s'agit d'essais d'écologie, mais c'est aussi de se dire que c'est nos problèmes attentionnels qui font partie centrale de nos problèmes écologiques, climatiques et autres.
Manu Farine.
Justement, un point de définition pour qu'on comprenne bien. Vous allez voir, la question, elle est toute petite. Qu'est-ce que ce terme d'attention contient? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de régimes différents et de qualités différentes d'attention. Sachant d'ailleurs qu'en français, je crois que c'est la seule langue où on dise « faire attention ».
Oui, en allemand, on dit « schenken », on dit « offrir attention ». En anglais, justement, « pay attention hein, », payer de l'attention, comme prêter attention un petit peu en français. Donc l'attention, on a beaucoup de peine. Les psychologues ont passé des décennies à essayer de définir exactement ce que c'est. On ne sait pas si c'est une faculté, si c'est une sorte de mélange de trucs. On a tous une approche intuitive de l'attention, à savoir qu'on peut diriger nos regards, notre écoute, plutôt vers ceci que vers cela. Donc après, on peut se donner des définitions à coucher dehors, mais je crois qu'il y a quelque chose d'intuitif. Le seul problème avec cette définition intuitive, c'est que c'est une définition individuelle. Moi, je peux faire attention maintenant à vous, je peux regarder Manu, je peux regarder Baptiste Trottignon, faire attention voilà, à la façon dont il me regarde. Cette définition individuelle, elle est majoritaire dans ce qui s'écrit sur l'attention et moi, j'avais envie de rajouter d'autres niveaux. Alors, il y a quelque chose d'autre qui est assez consensuel, c'est ce qui s'appelle l'attention conjointe. À savoir qu'ici, si vous allez tous regarder la porte, je me dis qu'il y a quelqu'un qui est entré, qui va entrer et qui est très important, donc forcément, je vais regarder la porte. Donc, l'attention conjointe, c'est lorsqu'on est en coprésence, mon attention à à moi est, je vais dire, conditionné par l'attention des gens qui sont autour de moi. Et mais ce qui m'intéresse le plus, en fait, et pourquoi je parle d'écologie attentionnelle, c'est parce que c'est au niveau d'une attention collective de ce qui se passe dans les publics qu'on me semble avoir un problème contemporain.
Alors, dès l'introduction, vous prenez comme exemple concret pour illustrer ces questions d'économie de l'attention une promenade dans les rues d'Avignon pendant le festival parmi les affiches. Qu'est-ce qu'un tel exemple vous permet d'illustrer et de faire comprendre ?
Alors là, c'est un petit peu le départ du livre qui s'ancre sur une sorte de discipline qui a émergé depuis une quinzaine d'années qui s'appelle l'économie de l'attention. Et quel est le postulat de l'économie de l'attention ? C'est de dire qu'on est en train de vivre une sorte de renversement où jusqu'à présent, l'économie, le problème de l'économie, c'était de produire plus ou de produire mieux en utilisant moins de ressources pour la production. Et là, l'économie de l'attention, ça dit que non, un des problèmes énormes des ressources aujourd'hui ne se situe plus seulement du côté de la production, mais du côté de la réception. Lorsqu'on va à Avignon, il y a plein d'artistes qui proposent, qui produisent des spectacles, et tant mieux pour eux, et c'est très bien. Et il y a, on sent quand on se promène dans les rues, une sorte de soif un petit peu désespérée d'attirer l'attention. Venez chez moi, venez voir mon spectacle, alors qu'il y en a 600 qui se passent en même temps ailleurs. Et c'est un petit peu le problème qu'on a aussi lorsqu'on publie des livres. Quand on publie un livre, on espère que les gens vont nous inviter à France Culture. Donc on est très heureux et très honoré quand on se fait inviter à France Culture. Mais on sait que c'est une chance énorme parce qu'il y a plein de livres qui se publient, qui sont plus intéressants que celui-ci sans doute. Et qui malheureusement passe un petit peu inaperçu et qu'on n'invite pas à France Culture. Et donc cette espèce de à la fois de compétition pour l'attention qui est un petit peu triste, mais plutôt de se dire mon attention est quelque chose de précieux. L'attention est une productrice de valeur et donc moi lorsque je regarde ma télévision, que je lis le journal, etc., je suis détenteur d'une valeur, de quelque chose qui va valoriser les objets.
Manu Farine.
À partir de quand est-ce qu'on a pu commencer réellement à parler d'économie de l'attention ? Parce que le terme est assez récent, mais probablement qu'on aurait pu en parler avant.
Alors, on en parle vraiment depuis les années 1995, c'est le développement d'Internet. Il y a tellement de choses qui deviennent disponibles pour notre attention que forcément, on se sent sollicité davantage. Mais en fait, la grande réflexion sur l'attention remonte à au moins un siècle. C'est le moment où, avec la révolution industrielle, il faut conditionner l'attention des producteurs pour se concentrer sur une chaîne de montage. Il faut conditionner l'attention des consommateurs pour qu'ils achètent les nouveaux trucs qu'on va produire. Et en même temps, se développent des nouveaux médias. Les nouveaux médias de l'époque, c'est le télégraphe, le téléphone, la radio, la télévision. Et donc, cette multiplication de canaux qui nous apportent des choses potentiellement intéressantes pour notre attention rend l'attention comme ressource beaucoup plus rare et beaucoup plus précieuse.
Pour reprendre l'exemple du jazz que vous développez par ailleurs, dans une écologie de l'attention, en quoi le jazz pourrait-il être le lieu de l'attention tel que vous la plaidez ?
Est-ce qu'on peut passer un son ?
On va passer un son.
Si on passe un son, si en plus de prendre des notes, je peux proposer à notre réalisateur de passer un son, lequel il veut y choisir.
Eh bien, on va passer le son que vous avez demandé, puis en même temps, vous allez le commenter. Blind Test, Baptiste Trottignon, vous savez ce que c'est ?
Aucune idée.
Réponse, Yves Citon ?
C'est du jazz barré. C'est vraiment du jazz barré. Ce n'est pas le jazz consensuel, c'est le jazz barré au sens même peut-être, je dirais, étymologique, où on barre. On écrit jazz et puis on barre parce que c'est quelqu'un donc, qui s'appelle Derek Bailey, un guitariste s'appelle Derek Bailey, qui avait comme objectif, comme visée, comme défi, comme mission, ce qu'il appelait l'improvisation non-idiomatique. Et l'improvisation non-idiomatique, c'est justement non seulement d'improviser, tout à l'heure on a dit vous improvisiez, mais on peut improviser à l'intérieur d'un langage. Et vous avez très bien dit qu'il n'y a pas besoin de changer de langage chaque fois. On peut faire du quatuor à cordes, on peut faire des trios, et puis faire du bop, etc. Il n'y a rien de honteux à ça. C'est des traditions qu'on nourrit et qui s'enrichissent à chaque fois qu'on improvise. Mais on improvise à l'intérieur d'un langage. Or, Derek Bailey proposait, il a théorisé, il pratiquait avec sa guitare une improvisation non idiomatique. Donc ça, c'est pour lui, pour le jazz barré. Du point de vue attentionnel...
Voilà. Alors, quel lien avec l'écologie de l'attention ?
Eh bien, on ne sait pas quoi en faire. Quand on écoute ça, on se dit quoi ? On se dit, il faut faire attention à quoi ? Est-ce qu'il s'est pris les doigts dans les cordes ? D'ailleurs, il a fait un disque qui s'appelle Carpal Tunnel, le tunnel carpien, où il s'enregistre une semaine après l'opération du tunnel carpien, deux semaines après l'opération du tunnel carpien, six mois, et puis on voit ses facultés qui reviennent. D'accord. Et donc, on se dit qu'il ne sait pas, enfin, il sait pas comment souffler dans une guitare, ce pauvre homme. Et en fait, donc c'est vraiment non idiomatique, non consensuel, et... Si on l'écoute un petit peu, je crois que je ne suis pas le seul à être une sorte de fanatique de Derek Bailey,
alors qu'il n'y a l'air d'avoir rien ou du n'importe quoi, on découvre, hein, on ajuste son attention à des objets qui la défiaient ou y échappaient. Et c'est un grand principe quand même de l'art contemporain, enfin, pas de l'art contemporain, de l'art moderne, hein, depuis 1850 au moins. Les artistes s'efforcent de produire des choses qui sont un défi à notre attention. Il faut inventer un nouveau mode d'attention pour ne pas simplement être repoussé par des tableaux tout blancs ou tout noirs ou par du bruit, et découvrir le mode attentionnel qui nous permet de trouver ce qu'on entend ici absolument délicieux. Donc ça, c'est un mode un petit peu minimal parce que c'est du rien, et le travail attentionnel consiste à le développer en quelque chose. Si on peut faire l'autre son, on aura l'autre extrême du travail attentionnel permis par la musique créative improvisée que certains appellent jazz.
C'est un homme de radio, hein. Il vient de lancer l'autre son. On y va. Blind test, Baptiste Trottignon, qu'est-ce que
c'est? Toujours une gamme. Aucune idée, je suis désolé. C'est déjà plus pour... Je vais pas... Il y a déjà plus de code, là, déjà, par rapport à ce que tu as avec Bellet.
Yves Citon, identification de ce son.
C'est alors un trio, c'est aussi un trio de Marc Ducret, notre camarade européen, Tim Byrne, donc il y a guitariste là-dessus, Tim Byrne, le saxophoniste new-yorkais, et Tom Rainey, le batteur. Ils font un groupe qui s'appelait, je crois qu'ils auraient été sous ce groupe-là, qui s'appelait Big Satan, Grand Satan. Et ça, c'est un de mes albums favoris. Alors, du point de vue de l'attention, qu'est-ce qui se passe ici? On a trois lignes mélodiques, rythmiques, qui au début sont très écrites. C'est le contraire de l'improvisation au sens Bailey, où on pourrait se surprendre avec ce qu'on fait soi-même. Donc, ça commence avec des choses très écrites, mais qui ont l'air de partir dans des directions assez différentes et qui, après le long thème introductif, partent effectivement dans des directions différentes. Et là, pour moi, c'est une école de l'attention, non pas au ce sens où on érige en objet d'attention quelque chose qui avait l'air d'être du n'importe quoi ou du bruit, mais on fait de la multi-attention. Le multitasking dont on dit aujourd'hui qu'on le subit comme quelque chose d'horrible, ou alors que les jeunes peuvent faire que ça, qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Ce type de musique, pour moi, alors c'est du plaisir d'abord, on ne fait pas ça pour faire de la gymnastique, mais ce plaisir nous conduit à isoler des lignes mélodiques et à arriver à les suivre petit à petit ensemble, dans leur ensemble et dans leurs différences. Et là, il me semble que la première fois qu'on écoute ça, ou si on n'est pas habitué à ce genre de musique, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est agressif, c'était de la frappe un petit peu brutale, et puis c'est n'importe quoi parce qu'ils jouent même pas ensemble. Et petit à petit, de nouveau, en construisant, en éduquant son attention, pour moi, ça c'est une chose absolument jouissive et pas plus violente qu'autre chose.
Est-ce qu'on parlait de radio, Manu Farine?
La radio, c'est aussi une école de l'attention. Et puis, on a bien compris que vous étiez aussi un homme de radio, parce que je crois que vous défendez du jazz, en tout cas dans l'émission Zazirocratie sur Radio Campus Grenoble. Qu'est-ce que vous y défendez, justement?
J'y défends d'abord la musique, parce que j'essaye de parler un minimum. Donc là, je ne parle pas, je me fais l'écho de temps en temps d'un philosophe ou autre que je lis, et sans ça, je passe. Alors, soit ce type de jazz, free ou musique créative improvisée, soit de l'indie rock, mais là vraiment qui tâche et qui attaque, des choses comme shellac, des choses vraiment qui tapent, qui frappent. Et je ne sais pas, pour moi, il y a vraiment un continuum entre un certain jazz qu'on vient d'entendre, de la musique noise et du rock, qui peut faire des chansons, qui peut faire des choses qui passent bien, ou même Radiohead aussi. Ce que j'aime beaucoup chez Radiohead, c'est qu'il y a vraiment un travail sur le son, sur la composition, qui nous surprend à chaque fois. Et ce qui est quand même un miracle absolu, qui sont largement diffusés, qui passent dans les grandes radios. Et ça, pour moi, quand même, c'est un des drames que Tim Byrne ne passe pas à Europe 1 tous les jours.
Il ne faut quand même pas pousser non plus.
Si, il faudrait pousser, justement, il faut pousser. C'est dramatique que Tim Byrne ne passe pas à Europe 1. C'est merveilleux que Radiohead y passe, mais c'est dramatique que Tim Byrne n'y passe pas.
Baptiste Trottignon, ça me suggère juste une question à vous, Yves Citon. En quelle mesure pour vous, dans ce cas-là, c'est intéressant, l'esthétique là-dedans, dans quelle mesure est-ce que le plaisir esthétique ou la jouissance esthétique a une importance ou pas, un peu, beaucoup, etc. Parce que c'est vachement intéressant, j'écoute, est-ce que c'est une approche que vous considérez comme cérébrale ou pas? Ça m'intéresse de savoir ça.
Je ne sais pas, cérébral, le cerveau, c'est le corps, donc c'est aussi une approche corporelle. Moi, quand j'écoute ça, j'ai envie de danser. Derek Bailey, un petit peu moins. Mais, mais Big Satan, ça me donne vraiment envie de danser, ou Thread Gill, etc. Il me semble que c'est des musiques, justement, qui sont non consensuelles. Donc, on n'a pas le sens. On n'a pas le sens commun qui nous donne les pas pour la danse. Et en même temps, ça donne envie de bouger. Donc, pour moi, c'est pas vraiment cérébral. Alors, pour moi, c'est central, la question de l'esthétique, parce que l'esthétique, c'est une affaire de goût.
Et justement, c'est très compliqué, je sais.
Et justement, l'enjeu des expériences esthétiques, c'est de raffiner. Au XVIIIe siècle, on parlait de raffiner le goût. Et c'est justement nous faire goûter des choses qui étaient dégoûtantes, a priori.
Alors, je vais revenir sur le XVIIIe siècle, qui n'est pas éloigné du jazz. Votre émission de jazz s'appelle Zazirocratie. Le titre fait écho à un auteur sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Charles Tiphaigne de La Roche, qui était un médecin qui avait signé en 1761 l'Empire des Aziris sur les humains et la Zazirocratie. Qu'est-ce que cet auteur annonçait et quel rapport aujourd'hui avec le jazz ?
Alors, il y a un jeu idiot qui fait que Zazirock, ça ressemble un peu à Jazzirock, d'accord. Mais derrière ça, c'était... Alors moi, j'ai fait une sorte de pari qu'on pouvait faire une étude approfondie d'un auteur absolument apparemment insignifiant, inconnu, etc. Et décréter que c'était aussi important que Rousseau. Et effectivement, pour moi, aujourd'hui, j'ai fait la preuve dans mon petit parcours. Par exemple, personne n'y croit, hein, je suis le seul à y croire. Mais à mon avis, c'est un...
Ok, il y a quand même un ouvrage collectif plus un essai de votre part.
Ouais, mais
qu'est-ce que cet auteur annonçait?
Alors, il nous parle d'esprit. C'est quelqu'un qui a été disqualifié au XVIIIe siècle parce qu'au lieu d'être un bon matérialiste de nouveau, que les éditions sociales du Parti communiste ont pu republier fièrement en pensant que c'était l'histoire du marxisme, il nous parle d'esprit élémentaire, de sylphe, de trucs à coucher dehors, dont on se dit, ben voilà, c'est un antiphilosophe, il n'a rien compris à la modernité. Et en fait, ces esprits dont il nous parle, pour moi, c'est la meilleure représentation de ce que sont les ondes. Hein, les ondes qui sont en train de partir de ce studio et de rayonner dans les ménages de millions de Français... on en comprend la nature, les effets, on peut les imaginer, parce qu'on a beaucoup de peine à les voir et à voir leurs effets, en lisant Charles Tiphaigne de La Roche.
Il ne s'agit pas qu'il y ait des vieux babos avec les guitares à mandolière, mais la formule est prouvée, l'expérience a prouvé que ça sonne magnifiquement bien, que c'est très riche et infini.
Et ça, je trouve ça très beau. Le seul problème avec cette définition intuitive, c'est que c'est une définition individuelle.
Merci à nos invités Baptiste Trottignon. L'album Hit est disponible sous le label Naïve. Et je rappelle que le trio sera en concert le 2 octobre à Tours, le 11 à Vincennes, le 15 à Toulouse, le 17 novembre à Paris au Café de la Danse. Yves Citon, l'écologie de l'attention, à Paris aux éditions du Seuil. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Il est grand le mystère de la foi.
C'est pas l'appel de Dieu que t'as ressenti, hein. C'est plutôt l'appel de la chatte.
Waouh! Demain!
Ça swing!
Ça swing! Elle sera avec nous, hein, cœur Zoé Sfez, puisque ça parle d'elle. Demain, ainsi soit-il, avec les scénaristes David Elkheim et Vincent Poirimeau, et puis à leur côté, dossier polar avec Dayon Meyer. Des annonces, Hippolyte?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture Zoé Sfez, à la technique Emmanuel Morse-Duncan, Pierrick Monsigny, à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
On ne dit pas Emmanuel Morse-Duncan, on dit la belle Emmanuel Morse-Duncan. Il est 19h53, vous écoutez France Culture, c'est bien ? Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.